Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Vivre ensemble, c'est la seule voie possible.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, Urtel. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le grand dialogue de l'émission de débat sur votre radio.
Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour le dialogue. Dialogue intermalien, dialogue sur les zones de Studio Tamani et de Mikado FM au profit de tous les Maliens, comme le veut la conférence d'entente nationale. Un adage bambara dit, je cite, « Sigikafoye damouye ». Traduction, du dialogue jaillit le bonheur et la compréhension. Moi, j'ajouterai la paix, parce que la compréhension mutuelle est le socle du vivre ensemble. La conférence d'entente nationale, c'est le débat national entre toutes les composantes de la nation malienne pour échanger sur les causes profondes des crises successives qui ont secoué le pays depuis les premières années de l'indépendance et dont la dernière, non moins violente, date de 2012. Voilà dévoilé le thème de cette émission Grand Dialogue pour certains, table ronde pour d'autres. Tout compte fait, c'est l'espace de débat inclusif. La crise malienne, d'où tire-t-elle ses racines? Quelles sont ou quelles ont été les conséquences sur le peuple malien? Et que faire ou comment faire pour sortir définitivement de cette crise? 45 minutes pour diagnostiquer sans complaisance des grands maux qui sont à la base de l'effondrement du peuple malien, sinon même du Mali entier. Autour de cette table pour discuter, M. Sibeyte Ag Akado, président de l'Association pour la promotion de la culture Bella, Madame Dambélé Oulé Matosso, présidente de la Fédération des organisations féminines. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur au Centre Séné. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Akado.
Bonsoir.
Ce débat est co-animé par mon collègue de Mikado, Sori Ibrahim Maïga, et moi-même, Moussoukoura Konaté, du studio Tamani. À la mise en onde, nous vous direz. Sans autre forme de transition, à vous le micro, Sori Ibrahim Maïga.
Merci Moussoukoura Konaté. Ma toute première question, elle est adressée à l'ensemble des invités. Elle est toute simple. Cette crise était-elle prévisible? On sait que de 2012 à maintenant, il y a eu pas mal de changements. Mais est-ce que cette crise était prévisible? Professeur Niang, à vous d'abord.
Oui, en vérité, vous parlez d'une succession de crises. Et pourquoi une succession de crises, y compris la conférence d'entente nationale, est une autre crise, mais les symptômes pour la crise suivante sont déjà annoncés. Ce que je vais dire simplement par là, la crise sociale globale et sécuritaire aurait dû être l'objet de cette réunion, donc identifiée comme il faut, et dans sa cause profonde, dans ses relations sous-jacentes. Et nous avons passé 8 à 10 mois à rencontrer tous les partis politiques et toutes les institutions de la République du Mali, mais aussi rencontrer les hommes et les femmes qui sont sur les marchés de Médinakoura et autres, pour avoir une compréhension commune, une limitation de connaissances sur la cause profonde et ses relations sous-jacentes. Théoriquement, on a fait un livre blanc. On aurait dû prendre l'ensemble des discussions que nous avons eues pour sortir un document qu'on peut appeler un livre blanc bis, pour amener à la conférence, les gens vont se déterminer sur la cause profonde, parce qu'il n'y a pas deux causes profondes. Ils vont se déterminer sur les faiblesses de nos approches et on allait raffermir notre volonté collective par rapport aux solutions de rechange. Et là, en ce moment, on allait arrêter le cycle de passer d'une crise à l'autre.
Donc, cette crise. Oui, professeur, mais la question, elle est toute simple. Cette crise était-elle prévisible? Oui ou non?
Nous l'avons supposé depuis 2011. Et on travaille là-dessus. Ça fait pratiquement 10 ans, et 2008, que nous sommes en train de travailler au sein de l'Université nationale de défense américaine et avec des hauts fonctionnaires civils et militaires de l'ensemble du continent, niveau général, colonel et des députés. Nous sommes en train de travailler là-dessus depuis 2008 jusqu'à ce jour. Et je vous dis, au niveau du Centre Séné d'études stratégiques, aujourd'hui, nous avons terminé les recherches et nous savons très bien quelle est la cause profonde. Nous savons très bien quelles sont les relations sous-jacentes. Nous savons très bien les relations et les faiblesses des approches. Et nous avons la solution de rechange pour sortir le monde de cette crise sociale globale et sécuritaire sous l'état du Mali prééminent avec la responsabilité de l'initiative vers une vision de prospérité partagée.
Et c'est un chapitre que nous allons aborder avec...
Oui, on verra tous ces chapitres, mais pour l'instant, c'est les causes profondes de la crise. Quelles sont ces causes-là?
Bon, nous ne parlerons pas de... quand vous parlez des causes profondes, ça veut dire que vos recherches n'ont pas été complètes. Nous avons fait les recherches aujourd'hui, nous avons redéfini la menace par rapport au chapitre 7 qui a 70 ans, la Charte des Nations Unies adoptée en 1945. Aujourd'hui, la menace est de 4S, co-entreprise. Il y a la stabilité de la responsabilité sociale de la famille et de la mère qui sont attaquées. Il y a la stabilité des institutions qui est attaquée. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'institutions dans le, sur les deux tiers du Mali, mais aussi dans le centre et bientôt dans le sud. Et bientôt à Bamako, on va fuir. Maintenant, vous avez deux autres S qui sont au niveau de l'insécurité. L'insécurité économique, et qui était la cause principale de deux guerres mondiales, et qui aujourd'hui est la cause de la lutte d'extrême violence qui oppose les organisations mobiles d'extrême violence et le groupe spontané de proximité d'extrême violence. Et vous avez le quatrième S qui est l'insécurité pour le mouvement du capital d'investissement, pour le mouvement du capital humain, pour aller développer davantage des communautés de localité pour leur capacité de création de croissance économique. Donc, quand vous avez ces quatre S compris, vous pouvez prendre simplement l'insécurité humaine et sociale comme étant la cause profonde et liée aux autres comme une relation sous-jacente. Donc, vous avez une équation mathématique. Voilà un chercheur qui a la fonction reconnue mondialement pour un cas de crise supposé ou réel et qui trouve les solutions de rechange aux politiques existantes.
Ça, c'est vraiment mathématique.
Et cette démarche n'a pas été suivie. Et c'est pour cette raison que cette crise va encore donner une autre crise. Et on l'a vu depuis les premiers jours.
On ne le souhaite pas.
Aussi longtemps qu'on ne se met pas d'accord sur la cause profonde, on ira de crise à l'autre crise.
OK. Et M. Akado, bon, les gens ont tendance à qualifier cette crise de crise du Nord. Or, c'est une crise générale au Mali. Selon vous, quelles sont les causes? Les causes réelles, les causes profondes de cette crise. Bien vrai que le chaud du problème se trouve au Nord, mais c'est une crise générale.
Bien. La réflexion de l'historien géographe n'est pas loin de celle de l'économiste, du mathématicien. Sauf que nous n'allons pas prendre les choses sous un angle trop
scientifique.
Nous allons dire des choses peut-être très claires, très simples. C'est que le Mali est un pays africain qui a connu la colonisation. Et comme tous les pays qui ont connu la colonisation, et comme tous les pays dans lesquels il y a des diversités ethniques et raciales, le colonisateur a souvent divisé pour mieux régner. Et je crois que l'une des conséquences profondes, c'est que le colonisateur qui est venu, pour mieux régner, il a privilégié certaines communautés, certains groupes par rapport à d'autres. Et cette gestion-là, si le colonisateur l'a faite avec de la poigne, avec peut-être une certaine adresse,
plus de dextérité.
Après les indépendances, on est retombé dans des travers. Et surtout que le Mali est l'un des rares pays qui ont dit aux Français, allez-y. Et dès lors, on ne pouvait pas connaître la paix. Je dirais simplement que dès cet instant-là, nous savons que derrière toutes nos crises, tous nos problèmes, le colonisateur profitera de n'importe quel faux pas ou faiblesse pour revenir. Et de 60 à aujourd'hui, c'est le cas, malheureusement. Bon, sans rentrer dans les détails, nous savons qu'il y a la main de l'extérieur dans cette crise-là, sans rentrer dans...
Madame Dambélé, est-ce que vous partagez cette analyse de M. Sibeiti, une crise qui serait programmée, selon lui? Est-ce que vous partagez cet avis?
Merci beaucoup. Moi, je reviens à votre première question par rapport à la prévisibilité, n'est-ce pas, de la crise. Donc il a dit, c'est-à-dire cette crise n'a pas commencé avec l'indépendance du Mali. Ça a commencé bien avant avec la pénétration coloniale, avec quand même la colonisation. Mais je dirais qu'elle était prévisible. Si on se met dans une perspective d'État, de continuité de l'État, donc elle était prévisible. Mais quand seul le sommet de l'État, le haut sommet de l'État, avec ses mécanismes d'alerte-là, peut situer, n'est-ce pas, le moment. Et moi, je pense qu'elle était prévisible parce que, par rapport, ça me fait redescendre, n'est-ce pas, aux causes profondes. Un État, n'est-ce pas, la gouvernance de l'État doit connaître son territoire comme les lignes de sa main. En ce sens que, du point de vue géographie, histoire, culture, diversité, souvent, on a tendance ici au Mali à banaliser, n'est-ce pas, les choses. Mais tout est important. Si vraiment on voit que derrière tout cela, n'est-ce pas, il y a une hécatombe, n'est-ce pas, qui est tombée sur notre tête, n'est-ce pas, par rapport à ça. Tout élément, tout point de vue mérite une attention particulière pour éviter quand même ce que nous avons connu. Par rapport aux causes profondes, donc il disait que...
accuse la colonisation.
La colonisation a amené également la balkanisation de l'Afrique, que je soutiens. Et à un temps vraiment, si on remonte plus loin, la colonisation, n'est-ce pas, n'a pas très apprécié les regroupements sous-régionaux, par exemple le Sénégal et le Mali.
La fédération.
Voilà, la fédération du Mali n'a pas pu avoir le jour. Mais que ce soit malien ou sénégalais, tout le monde était engagé, n'est-ce pas, à voir cela. Donc, en fait, et ce qu'il a dit, moi, je ne déconstruis pas. Et je pense que nous sommes toujours dans cette dynamique parce que quand le colonisateur a laissé, n'est-ce pas, la gouvernance de l'État aux Maliens, ils ont continué avec la même trajectoire. C'est avec vraiment la démocratie que les autres acteurs ont commencé vraiment à mettre un peu la main, n'est-ce pas, dans la gouvernance du pays.
Donc, vous parlez de diversité de traitement des populations, que la diversité culturelle ne sont pas prises en compte. Mm-hmm. Mais le Mali, dans sa globalité, est un pays sous-développé. Donc, mm-hmm. Ce sous-développement concerne toutes les couches.
Les diversités...
Pourquoi certains ont pris les armes et d'autres ne l'ont pas fait?
Oui, mais en fait, c'est la nature, n'est-ce pas, du traitement qui a engendré tout cela, quoi. C'est-à-dire, tout le monde sait que vraiment, le Mali, toutes les régions du Mali ne sont pas sur les mêmes pieds d'égalité en termes de géographie, en termes d'histoire. Et vous savez, autant que moi, la résistance Touareg, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis, n'est-ce pas, la colonisation. Et tous les peuples aussi ne sont pas les mêmes. Et vous savez que les peuples nomades n'ont pas, n'est-ce pas, la même culture, par exemple, que les peuples sédentaires. Donc, ce qui fait qu'en plus encore, quelle est la caractéristique, n'est-ce pas, de cette zone? C'est le désert, c'est les dunes. Il y a des causes naturelles comme la sécheresse, comme la soif, comme la désertification. Les gens sont en souffrance, n'est-ce pas, dans ces zones. N'est-ce pas, l'État, dans sa vision, qui devrait voir par rapport à une péréquation, n'est-ce pas, des ressources, par rapport à une meilleure prise en charge, n'est-ce pas, des populations des différentes localités, n'est-ce pas, se situer, n'est-ce pas, dans une dynamique, n'est-ce pas, de prise en charge concrète et différenciée quand même de toutes ces populations. Donc, dès à l'instant que ça n'a pas été au rendez-vous, parce que je dirais, moi, on n'était pas présent, mais on a vu à travers les écrits que la gouvernance a un peu simplifié, n'est-ce pas, les choses, et il est arrivé, n'est-ce pas, qu'à certains moments, la gouvernance a traité avec des individus, des hommes forts, n'est-ce pas, des terroirs. Et s'il y a les hommes forts, n'est-ce pas, des terroirs qui gèrent, n'est-ce pas, les questions, n'est-ce pas, de gouvernance, il va de soi que le reste de la population est laissé pour compte. Voilà.
Ok, et on prend une petite pause et on continue.
Le grand dialogue.
Alors, retour à présent sur ce plateau. Merci à la technique. À présent, la deuxième partie du débat, elle porte sur les conséquences de la crise. On n'a pas besoin de vivre une crise pour savoir qu'elle affecte la vie des citoyens. Quelles sont ou quelles ont été les conséquences de la crise sur le Malien pris dans sa globalité? Ma question s'adresse d'abord au professeur Niang.
Bon, les conséquences sont claires. Hein. C'est l'insécurité économique. Les gens n'ont plus à manger, mais aussi c'est l'insécurité physique. Les gens n'ont plus la paix dans leur maison en marchant, en allant au marché ou en faisant, en allant danser. On est plus sûr que quand on part, on peut revenir. Et donc, tant qu'on ne comprend pas les déterminants de la crise, il va de soi que toutes les solutions qui vont être appliquées vont être des mauvaises solutions. La conséquence la plus grave, c'est l'émergence de ce groupe spontané de proximité d'extrême violence. Que ton voisin peut se lever et sans vous attendre que c'est un criminel qui est... Enfin, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui est d'extrême violence, parce qu'il ne faut pas dire criminel, d'extrême violence. Il se dit, pourquoi les autres ont eu des V8, pourquoi ils ont eu des bilans, pourquoi ils ont autant de virements, parce qu'ils ont été dans un parti politique, alors qu'hier, on était ensemble au grain. Donc, il se lève, il massacre sa famille. Et c'est ça qui, surtout, la conséquence la plus grave et qu'il faut arrêter ce processus. Et nous avons fait des études comment on peut arrêter ce processus de dégradation de la responsabilité sociale de la famille, de dégradation de la fonction sociale de la mère, qui
ça
était une mère éducatrice
et
une mère protectrice. Donc, je dirais simplement que les conséquences aujourd'hui, elles sont extraordinaires. Sinon, le Mali, contrairement à ce que madame dit, le Mali est l'un des pays les plus riches en Afrique. Mais vous n'êtes pas dans la richesse.
L'apparence ne le prouve pas.
C'est votre, hein?
L'apparence du Mali ne le prouve
non,
pas.
Non, ils ont une croissance relativement importante. Vous êtes troisième producteur d'or, vous êtes deuxième ou troisième producteur de bétail, vous êtes deuxième ou troisième producteur de coton. Vous avez certainement les surfaces irrigables les plus importantes, peut-être au même titre que le Soudan anglais. Et le problème n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous produisez aujourd'hui 100 tonnes, 200 tonnes d'or et que vous avez 0 tonnes avec vous, parce que vous n'êtes pas dans la chaîne de valeur et tout, madame, le problème n'est pas ça. Le problème est la stratégie de création de croissance économique et la stratégie de rétention de richesses.
Okay.
Et dont on a trouvé les solutions à ça. Mais si vous permettez, il y a une chose qu'ils ont parlé de colonialisme, je vais dire deux minutes là-dessus.
Okay.
En fait, c'est en 1954 qu'il y a eu une entente entre les nations chrétiennes suite à un jugement de la Cour suprême des États-Unis, El Warren, qui dit que là où les nations chrétiennes ont passé et qui ont colonisé des territoires, ils gardent le droit de prélèvement sur le sol et sous le sous-sol de ressources sans compensation financière de leur communauté de localité. C'est 54, 3 ans avant qu'on commence le processus d'indépendance dans les pays africains et 10 ans à peu près après l'adoption de la Charte des Nations Unies, puisque vous êtes la Charte des Nations Unies. Donc, c'est ça qui a continué et François Hollande a amené une variante. Le CFA est lié à tout ça. Mais François Hollande a amené une variante. Il dit que la logique de la France est de sécuriser ses sources d'approvisionnement en Afrique. Donc, il réclame que les zones sahariennes de la République française sont françaises. Il réclame que la zone de l'Office Niger, le titre foncier agricole de l'Office Niger, c'est pour lui.
Merci pour ce rappel historique.
Voilà comment on devient dans l'insécurité économique. Vous ne pouvez pas avoir l'insécurité et lutter contre l'insécurité alimentaire dans des circonstances comme ça où il n'y a pas la sécurité des investissements.
Tout à fait. Donc nous allons revenir au niveau des conséquences, surtout avec Mme Dembélé.
Oui.
On sait que les femmes ont payé un lourd tribut dans cette crise. Si vous pouvez nous en dire quelque chose.
Donc en fait, comme le docteur allait dire, l'insécurité alimentaire, l'insécurité économique, en plus de ça, moi je pense que vraiment ça a entraîné assez de troubles, de la criminalité, des assassinats, des violations graves, n'est-ce pas, des droits de l'homme, y compris, n'est-ce pas, les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Donc, il y a des femmes qui ont été violentées, qui ont été violées, des femmes qui ont été volées, des femmes vraiment qui ont eu... Parce que le revers, n'est-ce pas, de la médaille par rapport à notre religion que nous pratiquons a été déformé, n'est-ce pas, au cours de cette crise. Et ça fait en sorte que ça a été vraiment des violences à l'endroit, n'est-ce pas, des femmes qu'on obligeait par rapport au port de voile.
On va revenir à la question religieuse.
Donc, quoi, en fait, non, je suis dans les conséquences. Oui. Dans les conséquences, je disais qu'elles étaient dramatiques. Il y a l'exacerbation de la précarité, la pauvreté, surtout la pauvreté des femmes, des enfants qui n'ont même pas à manger. Donc, c'est ce qu'on a dit, la pauvreté alimentaire. Et disons, l'insécurité alimentaire. Donc, en plus de ça, il y a que, vraiment, la crise qui a commencé, n'est-ce pas, au nord, n'est-ce pas, a progressé au centre du pays. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, le constat est là.
Nous voyons une crise générale.
Tout ce qui est en train, n'est-ce pas, de se passer. Et vraiment, il faut que vraiment, les Maliens se serrent les coudes parce que vraiment, et ça commence, on risquera vraiment, si vraiment on ne prend garde, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, tout le pays vraiment qui
va s'enliser.
Avant de quitter autour de cette table-là, on va voir ce qu'on peut faire pour pouvoir donner des pistes de solutions. Monsieur Akouri, Akado, excusez-moi, Monsieur Akado, selon vous, quelles sont les conséquences de cette crise?
Moi, je ne rentrerai pas dans les conséquences avant de survoler les causes, parce que vous nous avez posé la question sur ces causes-là. Moi, j'ai envie de survoler rapidement certaines causes, parce que il faut se rappeler quand même que cette crise-là, elle est d'abord une crise du nord du Mali. Et le nord du Mali, c'est des communautés. Et je voudrais dire que ces causes-là, elles sont d'ordre géographique. Ma sœur les a évoquées, c'est-à-dire le milieu, il est difficile. Elles sont historiques, parce que ce sont des communautés quand même qui ont un mode de vie différent, n'est-ce pas, de certaines sociétés. Quand je dis mode de vie, c'est des sociétés. Les sociétés qui ont pris les armes sont des sociétés féodales, qui ont l'habitude, qui ont des habitudes de dominer certains peuples. C'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Donc, quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'accepterez pas le français qui est arrivé. Donc, opposition aux Français qui sont venus vouloir déstabiliser leur mode de vie. Les Français sont partis, ils ont confié la tâche, le reste de la tâche au Mali, c'est-à-dire aux autorités du Mali, qui ont tenté de continuer l'œuvre des Français. La rébellion de 1963 a éclaté. Parce que ceux-là qui sont habitués à cela voulaient faire revenir les choses. Donc, première crise. Et le reste, vous le savez. L'autorité du noir n'a jamais été acceptée par le blanc. Ce n'est pas au Mali seulement, ce n'est pas en Asie, c'est partout dans le monde. Le blanc a le réflexe d'être supérieur au noir. Et souvent, le noir même a le réflexe d'être inférieur au blanc. Il ne faut pas occulter ça aussi. Alors donc, sur le plan social, culturel, religieux, même la religion a aidé à créer dans l'esprit de certains qui sont supérieurs à d'autres. Et ça, c'est fondamental. Ça vous donne l'impression que c'est vous qui devez être toujours devant. C'est vous qui devez disposer toujours, donner la décision finale. Et vous savez, dans nos États dits démocratiques ou dits modernes, c'est des choses qui ne vont pas avec nos constitutions. Donc voilà un peu des choses qu'on doit absolument évoquer. Et enfin, sur le plan politique, on le sait, les différents régimes qui se sont succédés, je vais peut-être exclure un peu Modibo, mais de Moussa à aujourd'hui, nous avons vu que ceux qui dirigent veulent traiter avec les plus forts. C'est une réalité qui ne facilite pas les choses. Et quand vous ne voulez plus donner à ces plus forts-là avec lesquels vous avez traité ce que vous avez l'habitude de leur donner, ça crée problème. Et le problème du Mali, vous le savez, est là aussi. Donc, on ne peut pas ne pas toucher à ces crises profondes, à ces causes profondes. Pour venir aux conséquences,
oui.
Je dirais que je vais introduire les conséquences par l'ébranlement de ce système, n'est-ce pas? Je l'avais dit tantôt.
Oui.
Et surtout, cet ébranlement a été aggravé par les sécheresses. Donc, les sécheresses ont créé une situation économique insupportable pour ceux-là qui étaient habitués à vivre du fruit, du labeur des autres. Ils sont devenus des gens qui errent et la conséquence, c'est qu'ils sont allés partout, dans toutes les directions. Et finalement, en 90, vous avez vu, ils sont revenus avec force.
Mmh.
Avec force. Et cette force-là, elle continue, elle est en train d'entraver la vie du pays. Enfin, ces conséquences-là, si on doit les classer, on doit tout simplement dire qu'elles sont ressenties par l'ensemble des Maliens, n'est-ce pas ? Particulièrement les jeunes qui ont l'impression et qui ont toujours eu l'impression que le Mali, c'est-à-dire l'État, le père, donne aux nordistes plus qu'aux sudistes. Et c'est le contraire. Les jeunes du Nord ou les populations du Nord pensent que tout est au Sud. Et il y a un déficit de communication qui crée des problèmes.
Mmh.
Et ça, s'il n'y a pas de sincérité pour régler cette question d'incompréhension, de clarification du problème du Mali, les gens vont continuer à s'accuser et à se détester.
C'est l'objectif de la conférence d'entente nationale.
Les populations du Nord et celles du Sud, c'est la même chose. Et en conséquence, c'est le rejet du politique. Autre conséquence, nous rejetons aujourd'hui les politiques parce que nous les accusons d'incapacité, nous les accusons de calcul, nous les accusons de déstabilisation même des Maliens.
Et malheureusement, justement, on va en venir à vous écouter. C'est le regard d'un ressortissant du Nord qui analyse la crise. Alors que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise multidimensionnelle. C'est une crise politique, c'est une crise sécuritaire, c'est une crise sociale. Alors, professeur Nyang, quelle lecture faites-vous globalement de cette crise, au lieu que ce soit vu d'un seul œil ou du côté seulement du Nord ?
Ce qui résume le tout,
le micro.
Ce qui résume le tout, c'est de dire simplement que c'est une crise sociale, globale et sécuritaire. Ça renferme tous les autres aspects. Et on détermine la menace en conséquence. Donc, quand on parle des relations sous-jacentes qui sont des fois plus importantes, prenez maintenant l'Europe, la rareté des ressources naturelles dans leur propre territoire. Il n'y a plus de charbon et tout ça qui a abouti à l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de développer pendant la campagne, puisque vous êtes la presse? C'est le revenu universel. Le revenu universel, il s'agit de donner de l'argent sans que tu sois employé, parce que la croissance est zéro là-bas. Donc, il faut qu'ils viennent en Afrique retrouver leur ancienne propriété pour développer davantage leur capacité de rétention de richesses ici et aller le distribuer chez eux. Donc, tant que vous ne mettez pas tout ça dans l'équation, vous ne pouvez pas comprendre la globalité de la crise. Et ce n'est pas le Nord. Le Nord, pourquoi le Nord est devenu au centre des choses? Et regardez seulement ce qui s'est passé au Soudan anglais. Ils ont divisé en deux et bientôt, mes collègues demandent à ce qu'on prenne 10 à 15 ans sous une administration onusienne, l'administration du Soudan du Sud. C'est la même chose et ils vont se faire payer par l'exploitation des ressources naturelles, les nations, les autres nations qui sont en rareté de ressources. Donc, tant que vous ne comprenez pas la géostratégie, il y a beaucoup de choses qui vont vous dépasser. Quand vous regardez seulement l'horizon de le Nord, sur le désert, mais l'Israël est désert. Nous avons la plus grande réserve d'eau douce dans le Sahara malien. Nous avons le plus grand champ solaire du monde et libre. Et là-bas. Nous avons les meilleures terres qui sont là-bas si tu enlèves le sable.
Généralement, ces ressources sont source de malédiction pour l'Afrique.
Oui, c'est devenu une malédiction parce que je vous ai parlé de l'entente de 1954. Mais ce que
Allez-y.
Non, ce que je veux dire simplement, il ne faut pas vous focaliser sur l'Azawad, sur le Nord. Il n'y a pas de réconciliation entre le Nord et le Sud. Le système de péréquation que ma soeur a dit, ça c'était au temps de Modibo Keïta, le sucre coûte à Kenyeba au même prix qu'à Kidal.
Oui.
Mais cela ne peut plus continuer avec le monde libéral dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de nous mettre d'accord pour un plan de défense stratégique des nations où les ressources naturelles vont être exploitées, mais selon une vision de prospérité partagée avec le reste du monde. Et nous avons dit 60% pour les Africains et 40% pour le reste du monde. À ce moment, ils vont nous laisser. Si on ne fait pas ça, ils vont continuer à nous empêcher de se développer. Et les groupes spontanés de proximité de l'extrême violence aussi ont rendu impraticables les zones de l'Azawad. L'Azawad aujourd'hui, c'est une zone interdite aux Français. Bon, le reste du Mali, c'est une zone qui est fortement déconseillée pour les Français. Donc, ça veut dire simplement que le développement ne peut plus avoir lieu.
Donc,
là, vraiment, il faut que ces relations sous-jacentes dominent dès que vous avez une bonne compréhension de la cause profonde.
OK. Merci, M. Nyang. Dans les propos de M. Akadou et Mme Dambélé, vous avez fait ressortir un peu l'aspect religieux. Que pensez-vous du phénomène islamiste dans cette crise ?
De façon très très simpliste, nous savons que l'islam est devenu une source de revenus pour certains, est devenu un alibi pour certains. Nous savons que l'islam, dans son élan de croisade contre le christianisme, a toujours adopté des stratégies de choc. Il faut choquer l'autre, n'est-ce pas, pour mieux s'opposer. Et c'est ce choc-là qui se répercute sur nous aujourd'hui. Tous les groupes dont on parle, Moujaou, Ansardine, etc., etc., mais c'est eux qui tuent les innocents, c'est eux qui violent les femmes, c'est eux qui font du n'importe quoi pendant qu'ils prônent, n'est-ce pas, des charias. Et eux-mêmes, qui va les juger? Bref, okay. Nous pensons que l'islam est utilisé à des fins criminelles, tout simplement.
Dieu va les juger. Et nous faisons une petite pause et nous enchaînons avec les solutions pour cette crise.
Le grand dialogue.
Nous entamons la troisième partie de cette émission qui est consacrée aux propositions de solutions. Mais en attendant, M. Nyang veut parler sur la question religieuse.
Oui. C'est-à-dire, en vérité, la doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles, qui remonte depuis 1496 et qui a été confirmée en 1954, ne permet pas aux communautés de localité de bénéficier de leurs ressources naturelles s'il y a des multinationales qui viennent pour l'exploiter. Donc finalement, vous avez la doctrine chrétienne. On a exploité la doctrine djihadiste maintenant, qui dit que si vous êtes privé de vos moyens propres de subsistance, vous pouvez avoir recours à l'épée, au djihadisme. Donc, c'est un choc de doctrine. La doctrine de la découverte chrétienne et la doctrine djihadiste qui dit « je préserve mes droits antérieurs pour avoir votre arrivée ». Donc, finalement, il y a les nations islamistes, africaines et chrétiennes qui alimentent les forces combattantes qui se trouvent dans les organisations mobiles d'extrême violence. Et vous avez les nations chrétiennes qui alimentent les forces spéciales telles que la France dans les zones mobiles d'extrême violence, et ce sont ces deux qui se rencontrent. Mais il faut marcher l'industrie militaire, l'industrie sécuritaire en tant qu'économiste de la défense, et donc en réalité les autres gagnent maintenant à travers la guerre économique plutôt que d'aller dans l'économie réelle. Donc tant qu'on ne comprenait pas ça, ce choc de doctrine entre les deux, on va dire ils sont des djihadistes et tout ça, ils sont tous des extrémistes violent. C'est le mot approprié en tant que professeur d'économie de la défense et pour la défense de l'économie.
Ok, merci. Quand le mal est connu, il est plus facile de l'éradiquer. Les causes de la crise malienne sont connues. Lors des concertations régionales, les populations l'ont évoqué. Elles ont évoqué les causes selon leur appréhension du problème. Maintenant, comment penser la plaie pour une guérison totale? En termes plus clairs, quelle solution pour sortir de la crise? Cette question s'adresse à vous tous, à commencer par Madame Dambélé.
Merci beaucoup. Moi, je pense que cette solution, elle est plurielle. Elle est plurielle, elle est multidimensionnelle. Je dirais même que c'est une panacée de solutions. Parce que moi, je pense qu'il faut même repenser la gouvernance du pays. La gouvernance du pays en ce sens que nous sommes maintenant dans la démocratie. L'approfondissement de la démocratie est la décentralisation. Et cette décentralisation-là, je crois qu'on lui a donné assez de force, n'est-ce pas, dans l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Mais moi, ça ne me dérange pas dans un pays où vraiment les populations, n'est-ce pas, sont acquises à la cause. Ça ne me dérange pas vraiment si les populations maîtrisent les choses et les populations, n'est-ce pas, ont foi, n'est-ce pas, en leur pays. Et les populations, quand même, et travaille pour le bien collectif. Mais malheureusement, nous vivons l'individualisme, n'est-ce pas, au Mali. Ça fait en sorte que les gens cherchent, n'est-ce pas, à amasser, n'est-ce pas, des ressources pour eux-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut repenser la gouvernance du pays. Et maintenant, l'accord, n'est-ce pas, qu'on a eu à signer à travers notre gouvernement et les mouvements armés, n'est-ce pas, nous indique aussi que il faut envisager, n'est-ce pas, des réformes. Envisager des réformes nous amène dans la refondation, n'est-ce pas, de l'État. Et maintenant, quand tout cela-là est fait, Il faut que vraiment qu'au Mali, quand même, on s'évertue à appliquer, n'est-ce pas, nos textes. Le problème est qu'on n'applique rien au Mali. C'est les différents accords qui ont eu à être signés par le passé n'ont pas été appliqués. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui qu'on est dans des problèmes. Et maintenant, cet accord-là a été signé, je dirais, avec le couteau à la gorge, parce que tout le nord était pratiquement occupé. Donc, si on est parvenu à cet accord, n'est-ce pas, de cesser le feu, il faut que vraiment les gens y s'engagent. Que les gens y s'engagent, mais ce n'est pas une Bible aussi, l'accord, mais que vraiment les aspects, n'est-ce pas, qui sont difficiles d'application doivent être vraiment posés, n'est-ce pas, sur la table, et que les Maliens et même vraiment réfléchissent sur comment va devenir, n'est-ce pas, le Mali. Et surtout que l'État arrive à repenser sa gouvernance et prenne en charge les besoins réels, n'est-ce pas, des populations, en ce sens que l'État doit quand même aider à satisfaire aux services sociaux de base, n'est-ce pas? On doit avoir également une certaine équité, égalité, n'est-ce pas, par rapport à la répartition, n'est-ce pas, des ressources, des avantages du développement, et puis que surtout que l'État s'assume par rapport à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de certains grands programmes de désenclavement, certains grands programmes d'accès, n'est-ce pas, à l'eau potable. Aujourd'hui, moi, je pense que on doit même pas, l'État doit assurer, n'est-ce pas, lui-même, et le désenclavement, et puis là où vraiment il y a des problèmes vraiment d'existence même. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie.
Oui.
Voilà. Donc, je pense que l'État doit prendre en compte ses besoins. Et puis, il faut qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas, nos us et coutumes, nos traditions, voir comment on peut valoriser la tradition au service de la paix. Comment on peut gérer, n'est-ce pas, les conflits communautaires à travers, n'est-ce pas, nos propres valeurs culturelles. Justement, je veux qu'on soit nous-mêmes.
Parlant de cet aspect même, il y a une question qui se pose. Comment un pays de dialogue, de culturellement un pays de dialogue, a pu tomber aussi bas? On se pose la question.
Mais moi, je pense que c'est le gouvernail. C'est le gouvernail. Et ça, c'est vraiment la gouvernance de l'État. C'est celui qui conduit, n'est-ce pas, le bateau, n'est-ce pas, doit avoir une vision sur le long terme et faire en sorte que vraiment les besoins et les préoccupations des différentes régions puissent être intégrés, n'est-ce pas, dans la gestion des problèmes du pays. Dès à l'instant que cela est fait, parce qu'Kidal ne peut pas être traité de la même façon, par exemple, que Kaï. Sans compter qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, les régions de Kaï, les régions de Koulikoro, pratiquement c'est le désert. Le désert a commencé à avancer à grands pas, n'est-ce pas, dans ces régions. Ça veut dire que dans les années à venir, les questions de changement climatique vont encore appauvrir et mettre vraiment les populations dans une situation de précarité extrême. Donc il faut que déjà l'État soit prévenant par rapport à tout cela.
C'est compris, Mme Dambélé et M. Akadou. Et quel traitement spécial entrevoir pour cette crise?
La crise que nous vivons ne peut être bien traitée si les autorités politiques, la médiation internationale et la communauté internationale qui sont là, et les groupes armés, tant qu'ils n'auront pas justifié, n'est-ce pas, et nous convaincre du bien fondé de ce qu'ils sont en train de faire de 2013 à aujourd'hui. Quand je dis cela, ça veut dire qu'ils nous ont créé un moule dans lequel le Mali aujourd'hui ne se reconnaît que dans les groupes armés. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas plateforme, vous êtes SEMA. Politiquement, c'est pas au-delà du Nord, c'est tout le Mali. Si tu n'es pas plateforme, tu es SEMA. Et c'est des groupes armés qui, il y a seulement 5 ans, étaient la bête à abattre par les Maliens. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ces deux moules. Et il faut que l'État, la médiation et les groupes armés nous convainquent du bien fondé de ce chemin-là dans lequel ils nous ont mis. Et pourquoi nous voulons qu'ils nous convainquent, qu'ils le justifient? C'est parce que nous nous rendons compte que tout est fait pour créer ce que les Maliens ne veulent pas, que le Nord soit privilégié par rapport au Sud, que certaines populations du Nord soient privilégiées par rapport à d'autres populations du Nord là-bas, etc., etc., etc. On nous met dans ce chemin-là et on nous dit « signer une charte ». Ce n'est pas possible de signer une charte. Ce n'est pas possible d'aller à la paix. Ce n'est pas possible d'aller à l'unité si vous ne réglez pas certaines questions. Parmi ces questions, elle l'a dit tout de suite, désarmer ceux qui ont les armes. Quelqu'un qui a son arme, qui a ses bombes, il va vous dire, je suis d'accord, mais il a ses bombes. À tout moment, il peut les faire éclater. Quelqu'un qui est en train de quadriller les gens, qui sont en train de quadriller certaines régions. Le nord du Mali, aujourd'hui, en dehors de certaines villes, tout le reste est entre les mains des groupes armés qui font payer les impôts à des gens, qui les rançonnent, qui les taxent, qui les chicotent. Vous allez amener les gens ici et leur dire, signez une charte. Mais je ne vais pas signer une charte, j'ai le couteau à la gorge. Voilà le problème. Donc il faut sortir de cette hypocrisie-là dans laquelle on s'est enfermé et revenir à la réalité. Et je voudrais dire par là qu'il faut aujourd'hui amener ces acteurs qu'on a amenés ici, qui sont là, les amener tout simplement à admettre qu'il y a des principes. Il y a des principes à adopter. Le principe de l'égalité, de l'équité, de la représentativité, n'est-ce pas, etc., de la justice. S'ils les acceptent formellement, pas de façon hypocrite, formellement ils les acceptent, alors là, ils vont accepter désarmer. S'ils acceptent désarmer, ils vont accepter le reste. Les questions de la Zawad ne sont pas des questions compliquées. Et c'est une des questions qui empoisonne nos relations. On veut nous imposer de force cette camisole de la Zawad. Moi, j'ai dit tout simplement, si le Mali, tout le Mali ne peut pas trancher de la question de la Zawad, donnez-la aux régions du Nord qu'on veut transformer. Donnez-la, ils vont se prononcer dessus et vous aurez le résultat. Okay. Ce n'est pas compliqué. Mais okay. On ne veut pas de ça. Alors, comment vous allez arriver à solutionner une telle crise? Ce n'est pas possible.
Ok, merci. Et brièvement, M. Nyang,
quelle solution vous préconisez?
Non, je crois que la première solution, c'est une solution. Mais les conditions pour ça, c'est de respecter l'article 16 de la Constitution, qui dit qu'en cas de calamité nationale constatée, le concours de tous les citoyens est requis dans les conditions prévues par la loi. Et la loi qui prévoit ça, c'est la loi 04051, du 23 novembre 2004, portant Organisation générale de la défense nationale. Et la seule valeur ajoutée qu'on peut avoir de cette conférence d'entente nationale, et je vous remercie de m'avoir invité, parce que je ne suis pas invité à cette conférence, c'est qu'on renonce à la formulation actuelle des trois parties prenantes, qui sont le gouvernement, la plateforme et la CEMA, qu'on les remplace par la société civile, le groupe de société civile, la communauté des affaires et la classe politique. C'est ce qui est dans la nouvelle ère démocratique. Et ils doivent gérer, chacun de ces groupes, la stratégie de globalisation de l'entrepreneuriat. Donc, sans aller dans le détail de ça, nous, aujourd'hui, nous avons un projet de construction de l'État prééminent du Mali avec la responsabilité de l'initiative pour une vision de prospérité partagée à des niveaux qui amèneront la stabilité, la paix et la sécurité dans le monde entier. Donc, le Mali, aujourd'hui, devrait répondre à l'interpellation du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution 2005-2013 et 2227-2015 qui dit de prendre l'initiative. Et cette initiative-là, on n'arrive pas à faire ça parce qu'on est dispersé dans des révisions de constitution, dans des discussions de l'Azawad, dans des référendums à venir et même des élections qu'il faut oublier au moins pour deux ou trois ans et pour qu'on arrive à la stabilité. La variable Azawad est un faux problème, c'est un faux concept, c'est un faux problème. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de se pencher sur la construction de 20 à 30 régions États pour former la Fédération de l'État-nation du Mali. Et nous avons avancé dans les travaux. Et à partir de juillet 2013, le plan de défense stratégique des nations va être là. Et nous n'avons pas besoin de charte, on a besoin plutôt de plan de défense stratégique des nations de la période de juillet 2017 à 2018.
Merci. Le temps est court pour débattre d'un problème aussi sérieux. 45 minutes, ça paraît insuffisant. C'est la fin de cette émission dont l'objectif était d'analyser la crise malienne en profondeur pour poser le diagnostic et prescrire le traitement adéquat pour éradiquer le mal afin que règne la paix et le vivre ensemble au Mali. Les invités du jour étaient M. Sibeïté Ag Akado, président de l'Association pour la promotion de la culture Bella, Mme Dambélé Oulema Tousso, présidente de la Fédération des organisations féminines du Mali et membre de la Commission justice et réconciliation, Professeur Abdoulaye Nyang, économiste, chercheur
Pierre au Centre Sénet. Je vous rappelle que ce débat est le fruit d'une synergie d'action Sidio Tamani, Mikado FM, la radio des Nations Unies. Pour animer ce débat, vous aviez Sori Ibrahim Maïga de Mikado FM et moi-même Moussoukoura Konaté de Sidio Tamani. Nous vous direz à assurer la mise en onde. Nous espérons que ce débat soit une contribution pour alléger les souffrances des populations en quête de paix et de sécurité pour leur bien-être. Merci aux invités, merci à vous auditeurs. Rendez-vous demain pour un autre débat, même heure, même fréquence et avec la même passion de vous servir. Au revoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Vivre ensemble, c'est la seule voie possible.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, Urtel. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le grand dialogue de l'émission de débat sur votre radio.
Studio Tamani, Mikado FM.